RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux compagnons de la Libération. Ces compagnons sont aujourd'hui l'objet d'une véritable mythologie. L'ordre compte aujourd'hui 1038 titulaires, dont un peu plus de 700 compagnons qui avaient survécu à la guerre. Hubert Germain fut le dernier d'entre eux. Il est décédé il y a quelques mois, en octobre 2021. La vie de ces compagnons a souvent été héroïque, voire véritablement hors norme. Mais la mythologie ne permet pas de voir la diversité des parcours, notamment dans leur relation à Charles de Gaulle, qui fut, vous le savez, l'initiateur puis le pivot de la résistance. Aujourd'hui, nous allons ausculter trois destins de compagnons, très différents et tous les trois passionnants. Et nous allons le voir, sensiblement différents dans leur relation à Charles de Gaulle. Nous sommes d'abord en compagnie de Pierre Servant, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes officier de réserve, journaliste, ancien conseiller ministériel, ancien porte-parole de la Défense. Vous avez publié de nombreux ouvrages historiques. Vous êtes collaborateur de TF1 et de LCI. Votre dernier livre s'intitule « Les sept vies d'Adrien Caunus ». C'est chez Perrin. Dans quelques instants, nous allons découvrir cet itinéraire de roman. Et puis, nous serons un peu plus tard en lien avec Maxime Tandonnet. Maxime Tandonnet, haut fonctionnaire, ancien membre du cabinet de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui publie une biographie non moins passionnante de Georges Bidault. Georges Bidault, de la résistance à l'Algérie française. Et puis enfin, avec l'historien Guillaume Piketty, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, nous scruterons le destin de Pierre de Chevigné, français libre, c'est chez Talendier. Voilà, aujourd'hui nous allons donc parcourir l'histoire des compagnons de la Libération.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors donc, nous commençons ce parcours avec Pierre Servant, qui publie aujourd'hui « Les sept vies d'Adrien Caunus », c'est chez Perrin. Alors Adrien Caunus, Pierre Servant, c'est avant tout un guerrier hors norme, mais c'est aussi et surtout un homme hors norme.
Oui, effectivement, c'est un homme au parcours hors norme. Il est né à Moscou en 1900, donc il naît russe, en terre russe.
Sous les tsars.
Sous les tsars, dans une famille d'origine française. Donc les Caunus, en russe c'est Caunus. Mmh. Et donc au début du 19e siècle, il a un de ses ancêtres qui a émigré en Russie, qui a fait souche. Donc il est de double culture. Ce qui est intéressant dans sa biographie, c'est que à la suite du divorce de ses parents, il va être le beau-fils du célèbre Sergueï Tchoukine, grand homme d'affaires, grand collectionneur. On a pu admirer à la fondation Vuitton sa collection, l'extraordinaire collection de peintures de son beau-père.
On a vu au Bois de Boulogne pendant longtemps.
Voilà, donc...
Et donc à 17 ans, Adrien Caunus arrive en France.
Voilà, exactement. Sa famille émigre en France pour fuir la révolution bolchevique. Mm-hmm. Et donc là, il va passer des concours, intégrer une école d'ingénieurs. Mais il faut savoir que c'est une âme à la fois mélomane, parce qu'il est né dans une famille de grands musiciens. Mais c'est un chasseur dans l'âme qui va se révéler par la suite un guerrier. Et sa terre d'élection va être l'Afrique, où voilà. Il va faire tous les métiers.
Et vous décrivez, Pierre Servant, dans votre livre, vous décrivez un monde à la Kipling. C'est le monde de la Centrafrique entre les deux guerres. C'est absolument hallucinant ce que vous décrivez. On peut être chercheur d'or, guide de chasse, trafiquant d'ivoire, de façon tout à fait libre et ouverte.
Voilà, effectivement, c'est une âme qui a besoin d'espace, qui a besoin d'adrénaline. Il va devenir très ami avec un personnage qui est un peu son double, qui s'appelle Pierre Bourgoin, qui était instituteur, directeur d'école, qui va être, comme lui, compagnon de la Libération, très grand combattant. Et ce sont des personnages qui aiment la prise de risque, ce que les militaires appellent les cadres non conformes, et qui vont être des très, très grands chasseurs.
Oui, ils aiment les armes. Il est passionné d'armes, Adrien Caunus.
Il est passionné d'armes. Mmh. Il a de sa formation initiale d'ingénieur, le goût de les transformer. Oui. On verra qu'à Bir Hakeim, ça va être extrêmement utile. Et ils aiment, encore une fois, ces deux personnages, les grands espaces, l'absence de contraintes. Voilà. C'est pour ça que, finalement, il aurait pu se diriger vers l'armée française après son service militaire. Mais à mon sens, le cadre était trop contraint. Sa vie
va croiser l'histoire. Juin 1940, quelle sera l'attitude de Adrien Caunus, Pierre Servent?
Alors, il est mobilisé comme sergent de réserve, mais il se trouve en Centrafrique, à Bangui.
Autant dire au bout du monde, à l'époque.
Au bout du monde, alors dans l'Empire, oui. Mais dans une terre qui n'est pas confrontée directement à l'armée allemande. Et lui, comme d'autres officiers d'active, officiers de réserve ou civils qui refusent la défaite, qui ne comprend absolument pas pourquoi le maréchal Pétain, le 17 juin, appelle à la cessation de combat. Et donc, il va faire partie des premiers Français libres. Il s'engage tout de suite dans ce qu'on appelle le bataillon de marche numéro 2. Donc, ce sont des troupes coloniales, infanterie coloniale, pour participer après à toutes les guerres de la France libre en Afrique et avant de basculer du côté des services secrets.
Assez vite, il va se trouver projeté sur un théâtre d'opération qui reste aujourd'hui très méconnu, dont on parle peu, c'est la Syrie, au Levant français, donc. Et là, des Français vont affronter des Français. Vous évoquez dans votre livre, Pierre Servent, ce moment un peu particulier. Il faut rappeler que la Syrie française de Vichy accueille sur ses aéroports, notamment à Alep, la Luftwaffe. Et donc, on va se trouver avec 5000 soldats gaullistes qui vont être confrontés à 35 000 soldats vichistes avec des frères d'armes, mais peut-être aussi des cousins, des frères de sang, qui seront face à face. C'est un moment quand même très, très particulier de l'histoire de France, Pierre Servent.
Oui, c'est vraiment une situation tout à fait tragique où des Français vont se trouver confrontés à d'autres Français, où des camarades de Saint-Cyr vont se retrouver opposés, où des unités de la Légion étrangère, et Dieu sait qu'à la Légion étrangère...
Voilà, vous insistez dans votre livre là-dessus, sur l'unité de la Légion étrangère.
Voilà, l'unité, vous savez que lors des défilés du 14 juillet, la Légion étrangère, c'est le seul bloc qui ne se partage pas en deux pour
se séparer devant le président.
Reste la Légion étrangère reste groupée. Donc effectivement, ce sont des combats terribles. Et d'ailleurs, De Gaulle va accepter que les officiers ou sous-officiers ou militaires qui refuseraient de combattre puissent le faire sans être pénalisés. Alors, en fait, il y en a très très peu qui vont le faire. Voilà. Il y a quelques officiers, deux officiers de mémoire. Mais ce sont des combats terribles qui vont...
Avec des centaines et des milliers de morts.
Voilà. Sachant que les Français sont aux côtés de Britanniques, d'Indiens, de Néo-Zélandais, etc. Donc c'est un combat qui va se terminer par la victoire des forces libres face aux forces de Vichy.
Ce sera l'armistice de Saint-Jean d'Acre
en juillet 1941. Qui reste en travers de la gorge de Gaulle parce que les Anglais passent cet accord un peu par-dessus la tête des gaullistes, mais ça fait partie des faits d'armes. Petit détail anecdotique, c'est que De Gaulle refusera de délivrer la moindre décoration aux Français libres, estimant qu'on ne peut pas décorer des soldats qui ont finalement tué d'autres Français. Voilà. Et il reprochera vivement, parmi tous les reproches qu'il peut faire à Pétain, le fait d'avoir engagé ses troupes dans ces conditions-là, finalement en soutien de l'Allemagne nazie. Et la grande déception de De Gaulle et des Français libres, c'est d'avoir finalement très peu de recrues. À la fin de la...
Après les combats,
la paix de Saint-Jean d'Acre que vous avez évoquée, De Gaulle et les Français libres estimaient que leurs camarades passeraient massivement de leur côté. Eh bien non, n'est pas encore le cas.
Ils sont rentrés en France, ils sont rentrés dans la France de Vichy. Alors, maintenant, on va aborder la légende. Bir Hakeim, Adrien Caunus, vous écrivez, Pierre Servent, que au-delà du fait d'armes connu de la France libre à Bir Hakeim, eh bien, Adrien Caunus se révèle comme un inventeur militaire de génie, quelque part, entre Géo Trouve-Tout et Mad Max. Racontez-nous.
Oui, effectivement. Donc, Bir Hakeim, désert des Cyrénaïques, 37 000 Français libres face à 40 000 Allemands et Italiens. Donc, autant vous dire que dans ce petit poste dans les sables, l'imagination est au pouvoir, la décentralisation du commandement. Et dans l'imagination, il y a le fait que quelques officiers, notamment Caunus, vont bidouiller des matériels en faisant des greffes tout à fait extraordinaires. Par exemple, greffer un canon de 75, vieux canon de la Première Guerre mondiale, sur des camions Dodge pour en faire des pièces anti-char qui vont être très efficaces. Caunus va aussi inventer des armements particuliers sur le Bren Carrier. Le Bren Carrier, c'est un petit chenillé du désert que les militaires surnomment la bonne à tout faire de l'infanterie. Et ben, cette bonne à tout faire va se transformer en arme redoutable.
Un grand succès.
Voilà.
Alors, on va passer les mois et les années. Ensuite, Adrien Caunus intègre les services secrets à Londres, et puis il va être parachuté dans le Vercors, le plateau du Vercors, cerné par les armées allemandes et par la milice du Vichy. Et là, il va vivre un épisode tout à fait hallucinant. Il est capturé et il est en quelque sorte fusillé, mais en fait, il est rescapé. Expliquez-nous.
Oui, il fait partie d'un groupe de résistants capturés, torturés par les Allemands, lui étant encore plus torturé que ses camarades, parce que les Allemands repèrent qu'il est le chef par les attitudes de déférence de ses autres camarades.
En sachant qu'il avait beaucoup d'argent sur lui, qu'il a réussi à le dissimuler.
Il avait des microfilms qu'il a pu dissimuler. Voilà. Mais donc, ils vont être conduits sur leur lieu d'exécution. Connu, c'est le dernier, mais comme c'est un chasseur dans l'âme, chasseur qui devient proie, il ait les épaules déboîtées, les doigts écrasés, il va au dernier moment, en faisant différentes analyses, notamment il va comprendre que l'Allemand qui est le plus proche de lui est ce qu'on appelle un Vlassov, c'est-à-dire un Russe, un soldat russe, voilà. Un soviétique, qui a été retourné par la Wehrmacht, qui sert là-dessus, et donc, en russe, il va lui dire « Si tu crois en Dieu, ne me tire pas dessus ». Et je passe sur les détails qui nous emmèneraient trop loin, mais il arrive à s'échapper, à sauter dans un ravin. Il va être poursuivi, traqué comme un animal. Mais lui qui est chasseur va pratiquer les techniques de camouflage des animaux et il va s'en sortir et envoyer à Londres un télégramme incroyable « Arrêté, torturé, fusillé, bonne santé ».
Voilà. Et puis alors, cette histoire absolument hallucinante va se poursuivre. En 1945, il va être infiltré pour des actions commando en Allemagne nazie. Et puis, va commencer une partie un peu sombre de sa vie. Il va être en Indochine. En Indochine, il va constituer un commando un peu hors norme, Pierre Servan.
Oui, effectivement. Donc l'Indochine, surtout au démarrage, c'est un peu la terre d'élection des commandos regroupant des hommes qui ont fait leurs preuves durant la Seconde Guerre mondiale dans toute une série de groupes, de corps francs, ayant la particularité d'agir en petit nombre, derrière les lignes ennemies, sans trop se préoccuper du droit de la guerre. Et dans le combat très particulier de la guerre d'Indochine contre les forces communistes qui elles-mêmes ne respectent pas les droits de la guerre, il va y avoir une dérive et le commando Conus va s'inscrire dans ces dérives qui vont conduire un certain nombre des troupes de Conus à pratiquer des exactions, fusiller des civils, pas mal de vols et de rapines également. Et donc, en quelque sorte, le colonel Conus va connaître la dérive du capitaine Conan, un personnage de roman de la Première Guerre mondiale.
Incarné au cinéma par Philippe Torton.
Voilà, exactement, dans un film tout à fait remarquable. Et là, vous avez un point qui m'intéresse depuis très très longtemps, c'est cette problématique des combattants irréguliers, indirects, qui finalement peuvent perdre leur âme à force de dériver dans ce type de combat.
Sur ce point précis, Adrien Conus s'est confié à Joseph Kessel dans le livre « Ils n'étaient pas tous des anges ». Et voilà ce qu'il raconte. Il dit « Voilà, vous prenez un village vietnamien, complice d'un guet-apens où sont tombés des camarades français. Personne ne veut parler. Vous alignez les habitants, vous en abattez 1/10, c'est la dose habituelle. Au moment où vous mettez votre pistolet sur sa nuque, le gars, un paysan, un artisan, un étudiant, crie du fond de l'âme « Vive la liberté !» ou « Ça m'est égal de mourir, il y en a d'autres. » Et puis, un autre village et un autre, et toujours le massacre. Autrement dit, Adrien Conus s'est trouvé dans des situations équivalente à ceux qu'il avait combattu dans le Vercors aux troupes allemandes. Est-ce que c'est un paradoxe qu'on retrouve dans la vie de certains compagnons de la Libération ensuite, après, lors de leur retour sur Terre, si j'ose dire?
Alors je ne peux pas le généraliser aux compagnons de la Libération, mais ce qui est vrai, c'est que ce type de combattants qui font de la lutte indirecte, au milieu des populations civiles, contre des combattants en face qui ne respectent pas les droits de la guerre, cette dérive existe. Et comme vous l'avez dit à travers le texte, Conus rentre en France parce que son commando a été dissous, parce qu'il a des gros problèmes de santé. Mais ma conviction, c'est que, vous savez, c'est ce qu'on appelle les blessures non apparentes, les blessures de l'esprit, de l'âme. Et véritablement, je pense qu'il est brisé parce que
de l'intérieur,
parce qu'il a, c'est d'où sa confession en quelque sorte à Kessel. Il a fait ce que lui a subi de la part des Allemands, et je pense que c'est ça qui va précipiter sa mort prématurée, puisqu'il meurt à 47 ans. Sur sa terre africaine d'adoption, à savoir à Bangui, où sa tombe se trouve toujours aujourd'hui.
Et il meurt en quelque sorte rongé à la fois par les amibes, par les virus, et puis aussi peut-être par sa propre culpabilité.
Voilà, donc là c'est évidemment une interprétation, mais je pense qu'il y a quelque chose de cela, et qui rappelle que dans ces types de combats, puisque ces combats ont lieu aujourd'hui aussi à travers le monde. Vous avez des commandos, notamment des commandos français. Moi qui ai été affecté comme colonel Orsem, justement dans les forces spéciales. C'est une population que je connais bien, qui est tout à fait remarquable. Mais voilà, ça n'est pas sans dégâts
limites,
et sans conséquences.
Les limites sont parfois...
Voilà, et donc il faut vraiment tenir ça. Et c'est la force des démocraties. Alors évidemment, face au totalitarisme, c'est une limite, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que les forces spéciales de Poutine se moquent totalement de ce type de règles. Et du côté démocratie, c'est l'honneur de ces soldats que de tenir justement un certain nombre de règles. Mais au combat, dans le fin du terrain et du combat, c'est évidemment extrêmement compliqué.
Un grand merci à vous, Pierre Servent. Vous restez avec nous encore quelques instants. Je rappelle le titre de votre livre, Les 7 vies d'Adrien Conus. C'est publié chez Perrin. C'est absolument passionnant, vous l'avez compris. On va faire une petite pause musicale avant d'aborder une autre vie passionnante, celle de Georges Bidault, qui a été chroniquée par Maxime Tandonnet dans son livre Georges Bidault de la résistance à l'Algérie française. C'est chez Perrin, ça sera dans un instant. Mais avant, on va faire un détour par la Russie. On va écouter un morceau extrait du répertoire de Alexandre Scriabine. Alexandre Scriabine, c'était l'un des familiers de la famille de Adrien Conus à Saint-Pétersbourg et à Moscou avant la révolution bolchévique. On écoute. Voilà, le pianiste Boris Gilburg interprétait l'étude en do dièse mineur opus 2 numéro 1 de Alexandre Scriabine. C'était l'extrait d'un concert enregistré en novembre 2017 à l'auditorium de la Maison de la Radio.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, nous scrutons aujourd'hui les destins des compagnons de la Libération, pour et contre de Gaulle, et on va aborder un itinéraire tout à fait particulier, aujourd'hui très méconnu. Maxime Tandonnet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été membre du cabinet de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous avez publié de nombreux ouvrages historiques, dont une biographie de André Tardieu, pour laquelle nous vous avions reçu il y a quelques temps. Aujourd'hui, vous publiez un Georges Bidault de la résistance à l'Algérie française, avec un itinéraire, on va le voir, extrêmement particulier et paradoxal. Alors, commençons par le commencement. Georges Bidault est un professeur d'histoire issu de la France profonde, du Bourbonnais, de l'Allier. Entre les deux guerres, c'est un militant chrétien. C'était comment, Maxime Tandonnet, un militant chrétien entre les deux guerres ? Rappelez-nous.
D'abord, c'était un croyant très sincère. Hein. Il était pratiquant, un chrétien pratiquant, d'une famille très pratiquante aussi. Il a perdu sa mère très jeune, qui était très chrétienne. Il avait une grande foi.
Et, donc il était professeur d'histoire et puis il devient journaliste.
Voilà, il était professeur d'histoire. Il a été élevé par les jésuites en Italie. Et il est devenu professeur d'histoire par passion de l'histoire et par passion de l'enseignement également dans les années 20. Et il militait dans plusieurs mouvements chrétiens, des jeunesses chrétiennes étudiantes notamment. Il était très très actif, très engagé dans ce domaine. Et en même temps, c'était une plume réputée dans ces milieux. Il y avait beaucoup de journaux des jeunes chrétiens et il était très, très impliqué dans ce domaine.
Très vivant. Ce paysage intellectuel-là était très, très vivant.
Oui,
et donc, il a collaboré à un journal très réputé à l'époque qui s'appelait L'Aube.
Voilà. Et plus que collaboré. Oui. C'est-à-dire qu'il était, en gros, il était l'éditorialiste du journal L'Aube, créé par un certain Francisque Gay, qui était également un des leaders du mouvement chrétien. Alors, chrétien un peu de gauche, chrétien centriste, chrétien
proche
de gauche.
Proche du Sillon, de Marc Sangnier.
Ce sont les héritiers du Sillon, tout à fait. Oui, et de Marc Sangnier. Donc très engagé dans ce mouvement associatif chrétien et plume de l'Aube, en réalité, plume très réputée de l'Aube à l'époque.
Donc une certaine notoriété.
Oui.
Un homme important. La guerre arrive. Que devient-il? Que se passe-t-il? Je pose la même question que à Pierre Servan tout à l'heure. Que se passe-t-il en juin 40?
Il est prisonnier de guerre en 1940. Il reste prisonnier de guerre jusqu'à 1941. En 1941, il est relâché en raison de son âge. Il a 42 ans. Il est ancien combattant de 1918.
Et puis, il était aussi un peu bon à rien, un peu indécrottablement intellectuel, si je vous ai bien lu, Maxime Tournemet.
Il était incapable de travail des champs. Inemployable. Voilà. Ça fait le mot par les Allemands. Exactement.
Alors, comment est-il entré en résistance?
Alors, il est rentré en résistance parce que, à son retour à Paris, il ne retrouve pas ses amis de l'Aube ni de la démocratie chrétienne et il apprend qu'ils sont tous partis en zone non occupée, en zone libre, à Lyon. Donc, il rejoint ses amis à Lyon et tout de suite, il se rend compte que ses amis ont fondé un mouvement qui s'appelle Combat, l'un des grands mouvements de la zone non occupée, l'un des premiers mouvements de résistance. Et immédiatement, il entre dans ce mouvement par l'intermédiaire de ses amis et il devient l'un des principaux rédacteurs du journal clandestin, appelé Combat lui aussi. Et il devient l'un des membres dirigeants de Combat très vite.
Et très vite, il devient proche de Jean Moulin, alors même que leurs deux profils sont radicalement différents. On sait que Jean Moulin est plutôt sur le plan politique un radical anticlérical, alors que Georges Bidault, vous l'avez décrit, est un chrétien social.
Oui, mais ils sont complètement unis dans le patriotisme, dans un patriotisme ardent, et dans la volonté d'en découdre à la fois avec le régime de Vichy et avec l'occupant allemand, bien entendu. Donc très vite, les deux hommes sympathisent, deviennent de véritables amis, inséparables même, et Georges Bidault s'impose comme le bras droit de Jean Moulin. C'est une belle image de la France unie, je trouve, un homme de gauche et un homme pas vraiment de droite, mais enfin un homme chrétien engagé qui unissent leurs forces pour la
pourtant,
libération.
Et pourtant, Dieu sait si la résistance à l'époque était éparse. Elle a rencontré d'énormes difficultés à s'unifier. Et pourtant, Georges Bidault, lui, va prendre la tête du Conseil national de la résistance après la mort de Jean Moulin.
Alors, de fait, Georges Bidault étant le bras droit de Jean Moulin et même un ami intime au courant de tous les secrets de la résistance que lui transmettait Jean Moulin, au moment après l'arrestation de Jean Moulin et sa mort en juin 1943, Georges Bidault s'impose comme le nouveau patron du Conseil national de la résistance qui s'appelait pas national à l'époque, qui s'appelait Conseil de la résistance. Il en devient le président, ce qui plaît pas beaucoup au général de Gaulle à Londres d'ailleurs.
Alors, quelle était la relation entre Georges Bidault et Charles de Gaulle à cette époque-là?
À cette époque-là, aucune. On ne se connaissait pas.
Il est probable. On pouvait diriger la résistance en France sans connaître Charles de Gaulle.
Ah oui, parce que Georges Bidault avait cette particularité d'être dans une situation très, très consensuelle au sein de la résistance, c'est-à-dire qu'il était ami avec les communistes, comme avec Combat dont il venait, comme avec l'ensemble de la résistance, une personnalité assez charismatique, assez consensuelle. Et donc la résistance, justement, les membres du conseil de la résistance considéraient que eux étaient engagés les armes à la main contre les Allemands, contre la Gestapo notamment, qui procédait à des arrestations, dont celle de Jean Moulin, et des tortures et des assassinats. Et donc la résistance intérieure voulait avoir son autonomie par rapport à De Gaulle. Et Georges Bidault, justement, incarnait un peu une résistance qui était autonome par rapport au général De Gaulle, qui lui voulait imposer un préfet à tout prix, comme pour succéder à Jean Moulin, parce qu'un préfet est obéissant, alors qu'un professeur d'histoire n'est pas si obéissant que ça.
Surtout Georges Bidault, qui n'était pas vraiment obéissant et qui était réputé d'un caractère fantasque.
Tête brûlée, un personnage très bohème, pas du tout militaire. Ce n'était pas dans la ligne du général de Gaulle.
Alors, on va avancer un peu dans l'histoire. On se souvient de ces images de la libération de Paris, les images de la descente des Champs-Élysées. On se souvient qu'on voit très très nettement, à côté de Charles de Gaulle, un petit homme qui fait signe à la foule d'avancer devant. C'était donc Georges Bidault qui l'a. Est-ce que c'est le premier moment où il rencontre Charles de Gaulle ou
Non,
ils sont déjà croisés.
Il l'a rencontré la veille, justement.
Ah oui, seulement
de
la veille.
Oui, quand le général de Gaulle a fait son fameux discours.
Alors, nous allons y arriver puisque nous allons écouter un extrait de ce discours de Charles de Gaulle le 25 août 1944 à l'Hôtel de Ville, un discours fameux. Mais vous allez nous raconter, Maxime Tandonnet, que c'était l'occasion d'un dialogue tout à fait intéressant et significatif entre Georges Bidault et Charles de Gaulle. On écoute le discours de Charles de Gaulle à l'Hôtel de Ville, le 25 août 1944.
Et pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains? Non, nous ne dissimulerons pas. cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Alors voilà, Charles de Gaulle évoque Paris libéré par son peuple, Paris libéré par la France éternelle, mais Charles de Gaulle n'évoque pas ni Jean Moulin, ni la résistance intérieure. Et vous dites, Maxime Tandonnet, que quelques instants après ce discours, Georges Bidault a demandé à Charles de Gaulle de proclamer la République. Et quelle a été la réponse de Charles de Gaulle ?
Alors la réponse de Charles de Gaulle a été de dire qu'il n'a pas besoin de proclamer la République puisque la République, il a continué lui-même à l'incarner depuis l'appel du 18 juin de Londres. Donc la République n'a jamais cessé d'exister, elle a continué à travers lui et il n'a aucune raison de la proclamer. Les résistants sont pas du tout sur la même ligne parce que eux, ils ont vécu les arrestations de la Gestapo, la torture, ils ont vécu dans la peur, dans l'angoisse, ceux qui ont survécu. Et ils considèrent que la République a bien été abolie, au moins pendant ces années d'occupation allemande et de régime de Vichy. Et donc, ils ne comprennent absolument pas que le général de Gaulle ne veuille pas symboliquement marquer le retour de la République.
Pierre Servant, on touche là une fêlure significative entre Charles de Gaulle et les résistants.
Oui, c'est vrai que de Gaulle, dès le début, d'abord, il est le premier, il est le seul. Hein, il faut bien comprendre que quand il débarque à Londres la veille du 18 juin, il a pratiquement personne autour de lui. Quelques jours après, il aura quelques combattants de Narvik. Comme le dit certains historiens, donc il est entouré d'une secrétaire qui ne s'est pas tapée à la machine et de quelques premiers résistants. Et donc, lui, il considère qu'étant l'alpha et l'oméga de cet esprit-là, il faut que la résistance intérieure se rallie.
Voilà.
Ça sera tout le boulot, notamment, de Jean Moulin, que de rallier les différents groupes
de Georges Bidault.
Puis de Georges Bidault, mais disons, Jean Moulin, plus qui connaissait de Gaulle, qui était son envoyé, qui portait cette mission d'unification. Voilà, donc c'est certain que ça n'a pas été complètement simple. Et de Gaulle, très rapidement, on le voit dans l'extrait de discours que vous avez donné, crée une vision un peu mythique d'une résistance unie, etc. Alors que la réalité était infiniment plus complexe. Et beaucoup de résistants de l'intérieur lui en voudront, parce que notamment lors de ses visites sur le terrain, de revues de troupes, en gros, il leur dit « vous avez fait le boulot, mais vous deviez le faire, vous n'avez rien à en attendre, maintenant vous rentrez chez vous, vous reprenez vos travaux, etc. » Et donc, pour ceux qui ont subi effectivement de l'intérieur la mort des camarades, les familles emprisonnées, déportées, etc., là, il y a une pilule qui va être un petit peu difficile à passer.
Voilà. Alors, cette pilule, Georges Bidault va l'avaler. Il va devenir ministre des Affaires étrangères. Bon, vous nous expliquez bien qu'il n'est pas tout à fait de la caste des diplomates et que ça va se passer bizarrement. Il épouse une femme qui sera l'une des premières diplomates françaises. La première, qui était une résistante, une femme au caractère un peu compliqué aussi. Oui. Voilà, donc ce couple va arriver au Quai d'Orsay, va s'y insérer de façon un peu baroque. Les relations vont rester tendues avec Charles de Gaulle. Vous écrivez que l'ancien professeur d'histoire, Georges Bidault, supporte mal le statut d'élève. Et à l'issue de certains conseils des ministres, il arrive à dire, ou au moins à penser très fort, que de Gaulle n'est pas Jean Moulin. Cette tension, comment s'est-elle vécue, Maxime Tandonnet ?
En réalité, Georges Bidault a toujours considéré la légitimité du général de Gaulle. Il l'a pas remise en cause, mais il est dans une situation, dans une relation très conflictuelle avec lui sur tous les sujets. Il partage sa vision globale de l'avenir de l'Europe,
oui.
L'idée que la France doit être une passerelle entre les alliés anglo-saxons et l'URSS. Tout ça, il le partage, mais en même temps, il est en permanence en train de se disputer avec lui lors des conseils des ministres. Ce sont souvent des coups d'éclat, parce que le général de Gaulle parle, donne des ordres, et Georges Bidault, lui, veut discuter. Il n'est pas d'accord sur certains points, par exemple, sur l'Italie. Le général de Gaulle veut annexer certaines portions de l'Italie qu'il considère comme en partie coupable de la guerre à travers Mussolini. Mmh. Et Bidault dit non, Mussolini, c'est pas l'Italie. Et Bidault, qui a vécu 10 ans en Italie comme étudiant, comme scolaire et comme étudiant, lui s'oppose au général de Gaulle sur l'Italie. Et sur le Liban également, on en revient au général de Gaulle qui est très 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 hostile à la politique britannique
au Levant.
Oui. Et Georges Bidault par contre estime qu'il faut faire des concessions à Churchill, ou sur les Américains également. De Gaulle était très hostile à Roosevelt, très réservé face à Roosevelt, alors que Bidault dit on leur doit quand même la libération en grande partie.
Voilà, mais on sait à quel point ça a été conflictuel jusqu'au dernier moment. On sait que Charles de Gaulle a été informé au dernier moment débarquement. Oui. On sait qu'il n'a pas été invité à Yalta. C'est quand même un mauvais souvenir pour lui. Donc tout ça a été très très compliqué. Je voudrais en venir maintenant au moment où cette fêlure entre Georges Bidault et Charles de Gaulle est devenue une rupture. C'est le moment de l'affaire algérienne. Alors, rappelez-nous le contexte. Quelle était la position de Georges Bidault au début de l'affaire algérienne?
Alors, Georges Bidault est dans la position de quasiment tous les Français, ou beaucoup de Français. C'est-à-dire que jusqu'à la moitié des années 1950, on considère que l'Algérie, ce sont des départements français et qui ont vocation à rester en France. Et à rester à la France. Et Georges Bidault s'est toujours tenu à cette ligne. C'était vraiment ça sa ligne. Et c'était une ligne qu'on peut dire républicaine, complètement républicaine. C'est-à-dire que lui considérait que la France avait vocation, d'ailleurs pour l'ensemble de ses colonies c'est un peu la même chose, mais pour l'Algérie plus particulièrement, parce qu'elle fait partie du territoire français à ses yeux, il considère que la France a un devoir absolu de développer l'économie de l'Algérie, d'assurer son développement social, de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie là-bas. Il considère que c'est le devoir de la France. Il ne peut pas y avoir d'indépendance tant que ça ne sera pas fait, en tout cas, quoi qu'il arrive.
C'était aussi le point de vue d'un autre grand résistant, Jacques Soustelle.
Absolument, ils étaient exactement sur sa même ligne là-dessus. Donc, et alors, ce qu'on ajoute, ce que les historiens ont tendance à oublier ou à négliger, c'est qu'il y avait une grande partie de la classe politique française, de la classe intellectuelle française, même de gauche, même beaucoup d'anciens résistants, qui étaient sur cette ligne aussi, qui considéraient qu'on ne pouvait pas partir de l'Algérie tant qu'on n'avait pas assuré la démocratie en Algérie, tant qu'on n'avait pas fait un pays moderne et démocratique et libéral. Donc Georges Bidault n'a absolument pas adhéré au discours de l'autodétermination du général de Gaulle du 19 septembre 1959, si mes souvenirs sont bons.
Alors même que le 12 septembre de la même année, 12 septembre 1959, vous l'écrivez, Maxime Tandonnet, Charles de Gaulle remet à Georges Bidault la Croix de la Libération.
Il
n'avait pas encore pris le temps de lui remettre,
Voilà. 10 ans ou 15 ans, il n'avait pas pris le temps de lui remettre. Je pense que de Gaulle avait en dehors des colibés permanents, des disputes entre les deux hommes, il y avait une vraie estime pour lui comme successeur de Jean Moulin et comme chef de la résistance, pour son courage. De Gaulle avait différents volets aussi, différents aspects de sa personnalité. Et je crois qu'il voulait s'assurer que Bidault n'allait pas, qui représentait quand même pour lui la résistance intérieure, n'allait pas lui voler dans les plumes en quelque sorte. Je crois que c'était son objectif.
Et ensuite, Georges Bidault s'est vraiment levé, au même titre qu'il s'était levé contre l'occupant allemand, si je vous ai bien lu, Maxime Tandonnet, il s'est levé contre l'évolution du général de Gaulle en faveur de l'Algérie indépendante.
Oui, c'est exactement ça.
Au même titre. C'est-à-dire qu'il s'est levé en résistant là également, c'est ça ?
Oui, alors là, c'est un point sur lequel je le critique beaucoup dans le livre, c'est-à-dire qu'il a voulu assimiler les deux résistances. Moi, je trouve que les deux résistances...
C'est un peu abusif.
C'est très abusif, Donc, à mon avis, il a commis une grosse erreur pour la postérité, pour son image aujourd'hui, qui a fait oublier ce qu'il a été dans les années 40. Mais il a jamais voulu céder là-dessus. Il a pas voulu. Il avait une personnalité très très marquée, une très forte personnalité, et il a jamais voulu céder au général de Gaulle. Alors que l'immense majorité des gaullistes à l'époque, ce qu'on a complètement oublié, était totalement pour l'Algérie française aussi, dont Michel Debré. Mais ils ont suivi le général de Gaulle, alors que le Bidault s'est en quelque sorte enfoncé dans sa vision des choses.
Pierre Servan, vous confirmez ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est frappant pour moi, pour avoir travaillé aussi sur cette période pour un autre livre, c'est à nouveau le caractère visionnaire de Gaulle, à mon sens. Alors, sur la méthode de séparation qui a été assez militaire et qui tient plus de l'arrachement qu'une séparation pertinente, prenant le temps, prenant en compte les psychologies. De Gaulle ne prend pas en compte les psychologies et les adhérences humaines, etc., quand il estime que l'intérêt supérieur de la France est concerné. De Gaulle, lui, son objectif, c'était imposer la France comme puissance intermédiaire, être une véritable puissance nucléaire, se lancer dans le développement économique, et l'Algérie de papa, il l'avait dit, c'était fini. Et il était effaré de voir que tous les pro-Algérie française retardaient d'un train ou d'un siècle.
Y compris ses anciens compagnons de résistance.
Y compris ses anciens combattants. Ils considéraient que, de toute façon, vu le rapport démographique entre ce qu'on appelait les Européens et les Algériens musulmans, de toute façon, c'était plié et qu'il n'y aurait pas possibilité de, comment dirais-je, aller vers un processus très lent où on développerait l'Algérie, puis après, il y aurait une sorte d'autonomie, puis après, une indépendance. Donc, il est allé franco et il a un peu arraché
il a arraché le cœur de ses compagnons.
Le cœur de ses compagnons, et ça a été géré de façon très dure. La difficulté pour les historiens ne peuvent pas refaire l'histoire en disant des si, etc. Est-ce qu'il aurait pu avoir une autre méthode que celle qui a consisté à vraiment provoquer les choses? De Gaulle était très critique sur les militaires. Il les a remis au combat, après avoir considéré qu'avant son retour au pouvoir en 58, il faisait surtout de la politique dans les villes. Il faut rappeler une chose que nos amis algériens n'aiment pas beaucoup entendre, mais qui est une réalité historique, c'est que la guerre d'Algérie sur un plan militaire a été gagnée par les Français. Ça n'est pas une grande victoire, parce que le rapport de force entre le contingent français, les forces françaises, l'armement et l'armée de libération nationale était totalement disproportionné. Mais de Gaulle remet au combat les troupes françaises, introduit notamment, c'est là où il est toujours visionnaire sur l'armement, il introduit l'hélicoptère comme capacité à coiffer les hauteurs pour après attaquer en descendant. Voilà, mais donc l'armée de libération nationale algérienne, elle est totalement détruite et étriée avant que De Gaulle entame son processus pour aller vers l'indépendance.
On va revenir dans un instant sur ce moment précis, puisqu'on va être en duplex avec Guillaume Piketty, qui a produit une biographie de Pierre de Chevigny. Pierre de Chevigny est compagnon de la Libération, qui lui-même était ministre de la Défense, précisément en mai 1958. On va y revenir dans un instant, mais avant, je voudrais terminer avec vous, Maxime Tandonnet, cet itinéraire un peu particulier, un peu paradoxal de Georges Bidault, puisque après avoir pris position contre le général, il se condamne à l'exil, il quitte la France, il est pourchassé par toutes les polices européennes. On voit vraiment un départ en vrille absolument hallucinant et aujourd'hui tout à fait méconnu. Racontez-nous, Maxime Tandonnet.
Oui, alors je veux dire que si De Gaulle a été visionnaire, Bidault l'était aussi à sa façon, parce qu'il prévoyait bien le chaos absolu en Algérie, la pauvreté, les phénomènes migratoires, etc. Tout ça, il l'avait bien vu quand même, le chaos qui allait naître de la manière dont l'indépendance était accordée et qu'on subit encore aujourd'hui, bien sûr, et que les Algériens sont les premiers à subir. Donc, en effet, De Gaulle, Georges Bidault a été maltraité, à mon avis, parce qu'on l'a assimilé à l'OS, il a jamais été à l'OS, ça je le prouve dans le livre, il a jamais ordonné d'attentat, lui c'était une opposition politique, idéologique à l'indépendance.
Donc il a choisi l'exil.
Mais il a choisi l'exil, il était un peu contraint parce que sa maison était quand même surveillée en permanence par des barbouzes, il était menacé d'arrestation à tout moment. Enfin bon, il est parti parce qu'il pouvait pas faire autrement.
Quelle déchéance.
C'est une déchéance épouvantable. C'est dramatique pour un homme qui a été le grand chef de la résistance intérieure, terminé comme ça dans l'exil.
Moi, c'est
ce destin que je trouve épouvantable et que j'ai voulu faire renaître dans ce livre.
Donc, il est parti au Brésil.
Il est resté 5 ans.
Il n'a jamais été jugé ni condamné. Son immunité parlementaire, a été levée.
L'attitude de la classe politique a été odieuse à son égard, parce que des gens qui le soutenaient, qui l'applaudissaient debout quand il parlait de l'intégration d'Algérie, se sont retournés contre lui en 1962 en demandant sa condamnation, etc. L'ensemble de la classe politique gaulliste s'est retourné contre lui de manière invraisemblable. Enfin, c'est la politique, mais...
C'est la politique.
Voilà. Et donc, il a été obligé de s'exiler à l'époque.
Il est rentré en France en 1967.
Oui, mais complètement déphasé. Il a voulu se relancer en politique. Là aussi, je veux combattre un mythe. C'est qu'il n'a jamais été au Front National. Oui. Contrairement à ce que le Front National raconte. Jamais,
très bien.
Au contraire.
Par les temps qui courent, il faut le rappeler.
Voilà, il faut le rappeler, exactement. Voilà, exactement.
Et il est mort en 1983, dans un oubli absolu.
Paradoxalement, c'est le seul hommage qui lui a été rendu, c'était François Mitterrand, président socialiste à l'époque, qui lui a rendu un grand hommage.
Qui lui se souvenait bien de la 4e République.
Et de la résistance.
Et de l'Algérie, puisque comme ministre, il disait « L'Algérie, c'est la France !»
Voilà, et comme ministre de l'Intérieur également.
Absolument.
Voilà. Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, nous scrutons les destins particuliers de plusieurs compagnons de la Libération avec le journaliste et historien Pierre Servent. Nous avons scruté les 7 vies d'Adrien Conus, c'est passionnant et c'est publié chez Perrin. Avec Maxime Tandonnet, nous venons de vivre cet itinéraire méconnu et paradoxal de Georges Bidault qui l'a conduit de la résistance à l'Algérie française. C'est chez Perrin également. Et puis nous sommes maintenant en compagnie de Guillaume Piketty. Bonjour Guillaume Piketty.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez chez Talendier un livre également passionnant intitulé « Français, virgule, libre, virgule, Pierre de Chevigné ». Alors je rappelle en quelques instants l'itinéraire de Pierre de Chevigné. En 1939, il a dirigé les Corps francs. Fin juin 40, il s'est retrouvé à Londres. Il a été l'un des hommes de confiance de Charles de Gaulle. Il a participé à la libération de Paris. Il a été fait compagnon de la libération en 1945. Il a été élu à l'Assemblée nationale au titre du MRP après la guerre. Et puis, il est parti à Madagascar. On va peut-être s'interrompre tout de suite sur ce premier passage. Madagascar, haut commissaire en 48-49. Ce fut un moment un peu particulier, Guillaume Piketty, dans l'itinéraire de votre héros, Pierre de Chevigné.
Oui, un moment particulier parce qu'il a... D'aucuns pourraient qualifier son choix de répondre par la positive à la proposition de Robert Schuman de devenir haut-commissaire à Madagascar, le qualifier ce choix d'erreur.
Oui.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est c'était une proposition pour un poste très provisoire. Il s'agissait d'arriver à Madagascar un an après le début de la Grande Révolte.
Il faut rappeler ce contexte de la Grande Insurrection de 1947 sur la Grande Île.
Qui est un contexte très très dur, à la fois du fait de l'insurrection et de la répression plus que ferme qui a été mise en œuvre par le haut-commissaire de l'époque, Marcel de Coppet, sur instruction de Paris. Et donc Chevigné part pour une mission de 6 mois pour succéder à de Coppet, et ces 6 mois sont devenus presque 2 ans, dans lesquels il a essayé, au cours desquels il a essayé de maintenir une ligne, on va dire, de marcher sur une ligne de crête, c'est comme ça qu'il le décrivait.
Après cet épisode extrêmement sanglant, puisqu'il y a eu des milliers de morts.
Oui. Il y a eu des milliers de morts, beaucoup moins que ce que l'on a dit, oui. Des milliers de morts, et aussi beaucoup de morts, des conséquences de moyen et long terme de l'insurrection, avec des gens déplacés, des gens en fuite, etc. etc. Et donc il a voulu maintenir, accompagner la fin de la répression politique voulue par le gouvernement, au prix de quelques entorses au droit, on va le dire comme ça, de solides entorses au droit, et en même temps essayer de remettre la Grande Île en situation de marche.
Voilà.
Vers
cet épisode restera un moment difficile pour lui, il en parlait peu après. Alors venons-en, si vous le voulez bien, Guillaume Piketty, dans la biographie de Pierre de Chevigné, à ces moments de tension qui nous intéressent plus particulièrement ici, face à Charles de Gaulle. Alors dans un premier temps, Pierre de Chevigné devient secrétaire d'État à la guerre de 1951 à 1954, et il se trouve qu'en mai 1958, au moment de l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle, eh bien, il est ministre de la Défense. Vous écrivez, Guillaume Piketty, à ce moment, il a perdu le fil, il a tenu un hôtel de Brienne transformé en bastion vermoulu d'une république aux abois. Racontez-nous, Guillaume Piketty.
Mais l'idée, si vous voulez, c'est que Pierre de Chevigné accepte la proposition que lui fait Pierre Flinin d'entrer dans le gouvernement qui est formé le 13 mai 1958. Et c'est un gouvernement, donc, de 4e République, qui est immédiatement soumis à une pression très très forte en provenance des militaires d'Alger.
Mmh.
Et qui sont immédiatement, qui refusent le programme que Pierre Flinin a dessiné pour les départements français en Algérie, c'est-à-dire un programme consistant à tenir sur le terrain, mais pour aboutir rapidement à une négociation et à moyen terme au départ de la France, tout en gardant, si possible, de bonnes relations avec les anciens territoires donc situés en Algérie. Et donc c'est dans ce gouvernement qu'entre Pierre de Chevigné pour soutenir cette politique. Sauf que pression en provenance d'Alger, on l'a dit, et on le sait bien aujourd'hui, agitation, on va dire, en provenance d'un certain nombre de gaullistes du moment, une agitation que n'a jamais dénoncée ou que n'a jamais interdite le général de Gaulle.
Voilà, et qui prépare le terrain pour l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle.
Voilà, voilà. Et donc, deux hommes en particulier, Jules Moc à l'intérieur et Chevigné à la Défense nationale, tirent, pendant ces 15 jours de mai, tirent les manettes de l'État, avec l'idée de tenir bon face à cette double pression d'Algérie et, on va dire, de Colombais ou des gaullistes. Et petit à petit, ils se rendent compte qu'au bout des manettes, il n'y a plus personne.
C'est ça, c'était des moments extraordinairement troubles. La République était devenue quasiment inexistante.
Oui. Oui, c'est une république aux abois, comme je l'ai écrit et comme vous l'avez dit en même temps, oui, absolument.
Et alors, ça se termine comment?
Ça se termine, qu'on le sait, par donc la chute du gouvernement Fillon, par Charles de Gaulle investi comme président du Conseil de la 4e République, le dernier en l'occurrence, et par ce moment un peu fort de Gaulle qui convoque Chouinier à Matignon, qui convoque donc un Français libre de la première heure, un compagnon de la Libération, Chevignier qui a été l'un de ses très nombreux hommes d'absolue confiance pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui lui dit: Chevignier, bon, vous continuez avec moi. Et Chevignier lui dit que non, très clairement, point un, parce qu'il refuse de soutenir un gouvernement revenu, selon à ses yeux, à la pointe des baïonnettes, et point deux, parce qu'il pense que la position du général de Gaulle concernant l'Algérie n'est pas claire. Et donc il lui dit: mon général, vous n'êtes plus l'homme de 40, et il s'en va en claquant la porte.
Oui, c'est absolument hallucinant, cette rencontre. On imagine la tension entre ces deux hommes.
Une tension terrible. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, Chevigny est un de ces hommes rares qui est arrivé en Angleterre au mois de juin 1940, sans même avoir idée de l'existence d'un général de Gaulle et d'un appel du 18 juin. Vous le savez, on le sait tous, cet appel a été peu entendu.
Oui.
Et donc Chevigny est en Angleterre, et c'est là qu'il apprend l'existence de Gaulle et de l'appel, et qu'il rejoint de Gaulle. Et ensuite, c'est la trajectoire que vous avez évoquée. Mais donc, il a, dans sa tête, une légitimité extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il est Français libre avant la France libre, en quelque sorte, vous voyez. Et puis, par ailleurs, dans sa tête, d'où ce titre pour mon livre, c'est véritablement un homme extrêmement libre. C'est un homme qui a toujours agi en fonction de ses convictions. Et là, fin mai, début juin 1958, il considère que ça n'est plus possible de continuer avec de Gaulle. Et donc, il lui claque la porte au nez, très clairement.
Voilà. Maxime Tandonnet, comment vous réagissez à l'évocation de cette rencontre, de cette rupture entre ces deux hommes?
Ça me fait penser un peu à Georges Bidault, quand même. Hein. C'est un peu le même parcours, même s'il n'avait pas les mêmes idées, visiblement.
Oui.
Mais ce sont des fortes personnalités qui ont choisi de tenir tête au général de Gaulle. Et d'ailleurs, tous les hommes politiques ont besoin de personnes qui savent leur tenir tête. Hein. C'est vrai.
Vous qui avez été proche de Nicolas Sarkozy, vous l'avez expérimenté.
Je pense que les hommes politiques ont beaucoup plus besoin de Cassandre qui leur dise la vérité que de courtisans. Et malheureusement, en général, ils donnent la préférence aux courtisans.
Et peut-être Jupiter a-t-il besoin de Cassandre, mais ça n'est pas notre sujet. Pierre Servent, quel regard vous portez sur cet itinéraire de Pierre de Chevigny, vous qui avez scruté bon nombre de compagnons de la Libération?
Bien, on retrouve une caractéristique, c'est que, notamment pour ceux qui se sont engagés très tôt, ça vient d'être dit, non pas pour avoir entendu l'appel du 18 juin, mais pour avoir entendu l'appel du 17 juin du maréchal Pétain à cesser le combat. De nombreux témoignages montrent que la plupart de ceux qui sont engagés très tôt, c'est pour avoir entendu l'appel à cesser le combat, qui trouvaient incroyable. Et il faut vraiment des personnalités assez rares pour que, dans cette période d'effondrement mental, il faut bien réaliser que la France est battue en 7 semaines avec les Britanniques. Ce sont les deux grands pays victorieux de 14-18. C'est un effondrement à un point incroyable. Et donc, dans ce désastre et dans ce désordre psychologique, d'avoir des personnalités qui disent « moi, je vais à Londres à l'aveugle », parce qu'effectivement, ils vont savoir qu'il y a un général obscur qui est quelque part, etc. Il faut un tempérament, un caractère. C'est ça qui me fascine chez la plupart des compagnons de la Libération. Ceux que l'on connaît, et puis l'immense cohorte que l'on ne connaît pas, avec des personnages qui viennent d'un peu partout, c'est cette capacité de résistance et de dire non. Et on le retrouve dans les deux personnages qu'on vient d'évoquer. Ce sont des personnages libres et qui étaient libres dans leur tête pour faire quelque chose d'absolument hallucinant qui, moi, m'interroge, me touche énormément parce que je pense que nous rentrons dans des temps extrêmement troublés et que la question qui nous est posée à chacun, c'est est-ce que nous serons, entre guillemets, est-ce que nous serons gaullistes, entre guillemets, dans la psychologie, etc., ou est-ce que nous serons pétinistes, qui avaient des raisons pour dire on va pas trop souffrir, attention, on va essayer de ménager les choses. Je suis historien, je suis docteur en histoire, l'histoire ne se répète pas, c'est pas une mécanique, mais il y a quand même des parfums intéressants, et ces personnages-là, à mon sens, nous disent quelque chose de fort.
Alors, Guillaume Piketty, dans la biographie que vous publiez de Pierre de Chevigny chez Talendier, vous précisez bien que cet homme a été libre en juin 40 au point d'abandonner femme et enfant.
Oui, alors je voulais ajouter...
Oui, allez-y.
En fait, il n'a pas abandonné femme parce qu'il était morte en mars 1939, mais il a abandonné deux petites filles, il les a confiées à ses propres parents.
Mais on imagine...
C'est un choix absolument terrible, c'est une transgression majeure pour partir. Mais pour lui, ça n'a pas fait un pli. En fait, il s'est quasi évadé de l'hôpital militaire où il se trouvait à Dax, Il devait être opéré parce que lourdement blessé, et il en est parti couvert de bandages et il a rejoint l'Angleterre. Mais ce que je voulais ajouter aussi sur cette capacité à dire non, ce qui est assez fascinant chez ce personnage, c'est qu'il va être, il a notamment été l'ambassadeur militaire de la France libre aux États-Unis entre avril 1942 et septembre 1943. Et c'est donc un homme qui a mesuré concrètement au quotidien le déclassement absolu de la France, l'une des ou la plus importante puissance militaire mondiale, en tout cas en théorie, avant la Seconde Guerre mondiale, son déclassement absolu du fait de cette défaite écrasante de mai-juin 1940, et dans le même temps, le surgissement lent mais sûr et extrêmement efficace du géant américain. C'est donc un homme qui est tourné vers le monde et qui expérimente sur place aux États-Unis la montée en puissance américaine. Et je pense que ça a encore accentué sa liberté intellectuelle, notamment face à certaines velléités en Algérie.
Et peut-être cela a-t-il expliqué aussi cette vision de l'Europe que vous évoquez chez Pierre de Chevigny. Vous évoquez une vision de l'Europe comme antidote à la perte de l'Empire. Oui. Est-ce que cette vision était répandue à l'époque, Guillaume Piketty?
Alors, je me garderai de monter en généralité sur le sujet, mais Chevigny est un pur Français libre qui a donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, mesuré l'importance de la partie d'Empire alliée à la France libre pour tenir bon, justement, face à ces très très puissants alliés britanniques, américains et de loin soviétiques. Et donc, au sortir de la guerre, il est plutôt... Il souhaite que l'Empire soit conservé. Mais en 6 ou 7 ans, il va faire un absolu aggiornamento et aboutir à cette idée que l'Europe est la solution pour la France. Oui, l'antidote, comme je l'ai écrit.
Et c'est une mise à jour que Georges Bidault, pour sa part, n'a pas fait, Maxime Tandonnet, puisque Georges Bidault, écrivez-vous, considérait que la France était en quelque sorte l'héritière de l'Empire romain, mais donc il n'a pas mis à jour sa vision du monde. C'était compliqué pour lui.
Alors Georges Bidault était pro-européen, hein, il était pour une Europe confédérale, en fait, une Europe des nations, très fortement engagée dans ce domaine, et il considérait que la France devait être un peu un intermédiaire, un peu une passerelle entre l'Europe et ses anciennes colonies, c'est-à-dire et l'Afrique notamment. Donc il trouvait que l'avenir de la France était d'être à l'interface de ces deux mondes, l'Europe et le Sud et l'Afrique.
C'est une vision qui s'est poursuivie. Oui, Guillaume Piketty, on vous écoute.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que peut-être ce qui a aidé Chevigny à faire ce cheminement, c'est qu'il y a eu l'affaire à Madagascar, cette expérience malgache
difficile.
Complètement heureuse, mais oui, difficile. Il y a eu aussi la guerre en Indochine. C'est-à-dire que Chevigny, il lui a été proposé de devenir au commissaire en Indochine. Et non, il est dit, de toute façon, après deux grandes tournées d'inspection là-bas, il a mesuré la difficulté dans laquelle étaient plongées les forces françaises, compris que ces territoires-là aussi, il allait falloir les abandonner dans les moins mauvaises conditions possibles. Et puis, comme parlementaire ensuite, en 1955, il a une mission d'inspection et d'évaluation en Algérie. Et là encore, il comprend que la situation va devenir rapidement intenable, d'où des réformes urgentes à faire qui ne seront pas complètement faites, on va le dire comme ça, et d'où ensuite cette conviction avec Plénin qu'il faudra partir, mais si possible dans des conditions décentes pour garder des liens avec l'autre rive de la Méditerranée. Mais donc il a été sur le terrain, en fait. Il a vraiment été sur le terrain.
Et donc il a compris. L'Indochine, qui vient d'être évoquée, Pierre Servan, ça a été vraiment un élément de traumatisme très important pour nos armées.
Absolument, bien sûr. La défaite de Diem Bien Phu, évidemment, est dans toutes les mémoires, même si à l'époque les contemporains essayent de relativiser en disant mais c'est une petite partie du corps expéditionnaire, mais c'est un traumatisme majeur. Et dans ces périodes, par rapport à la guerre d'Ukraine, où on parle beaucoup de propagande, les Vietnamiens, les Nord-Vietnamiens, ont mis en scène la défaite de Diem Bien Phu en faisant venir sur place un grand cinéaste soviétique, Roman Karmen, grand spécialiste de la propagande soviétique, et c'est lui dont on voit les films reconstitués après, avec les prisonniers français, avec ce système de défilé en serpent, qui permet, avec certains plans de caméra, de donner l'impression que c'était toute l'armée française qui était capturée. Donc ça a été un traumatisme absolument majeur. Et c'est vrai que les visionnaires, pour le coup, avant, qui avaient compris que l'Indochine c'était un peu fichu, qu'il aurait fallu trouver une autre voie, n'étaient pas très très nombreux en France.
Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais me tourner vers Maxime Tandonnet pour en arriver au présent. Maxime Tandonnet, vous avez été... vous avez travaillé à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Il vous arrive de signer des éditos aujourd'hui sur la vie politique française. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la vie politique française et la montée des extrêmes aujourd'hui?
Moi, je crois qu'on a assisté hier soir à une véritable révolution.
Donc, hein, c'était
la fin de la Ve République.
C'était le second tour, je précise, c'était oui. Le second tour, second tour de l'élection législative. Allez-y.
Oui, je pense que le système a toujours fonctionné depuis des années, depuis la mise en place de la Ve République, à travers un débat entre une opposition et une majorité, le président de la République pouvant s'appuyer en général, sauf dans les périodes de cohabitation très particulières, sur une majorité parlementaire pour faire passer des lois et des réformes. Là, on est dans une situation tout à fait nouvelle, tout à fait extraordinaire, où le président de la République est battu, il est désavoué, juste après avoir été élu, ce qui est tout à fait invraisemblable. On est en plein chaos, je trouve. Et...
On vous sent perplexe.
Ah oui, complètement, oui. C'est-à-dire qu'on voit pas du tout comment il va être possible de gouverner dans ces conditions. Et je crois que c'est l'aboutissement d'un long processus de décomposition et de pourrissement de la vie politique française, avec une abstention gigantesque, un désintérêt. Voilà. On arrive là où on devait arriver, c'est-à-dire au chaos total aujourd'hui.
Mais tout à l'heure, on entendait Pierre Servent lancer en quelque sorte un appel à une forme de résistance civique. Vous seriez sur cette même ligne-là, Maxime Tandonnet ?
Ah oui, absolument. Moi, je pense que, comme le disait Pierre Servent, on a besoin de repenser l'esprit du 18 juin 1940 et de penser en termes de résistance. Et puis, alors, homme providentiel, c'est bien prétentieux, mais au moins quelqu'un qui est des épaules solides pour faire face à des situations chaotiques qui vont se développer dans les jours à venir, à mon avis, dans les mois à venir.
Guillaume Piketty, une question un peu uchronique, si vous permettez. Qu'aurait dit Pierre de Chevigné aujourd'hui? En tant que compagnon de la libération, avec l'itinéraire qui a été le sien, tel que vous le décrivez dans votre livre.
Alors, écoutez, je me garderai de parler à la place de ce monsieur qui avait tout de même un tempérament et une intelligence un peu particulier, mais je dirais deux choses. La première, c'est à titre individuel, ne jamais, jamais céder sur les valeurs essentielles. Et ça s'inscrit dans la vie quotidienne pour chacune et chacun d'entre nous. Il y a des choses qui ne sont pas négociables, point final, et donc il faut tenir bon. Et puis, au plan politique, mais je pense que l'une des choses qui se paye aujourd'hui, c'est le manque d'enracinement local de beaucoup de celles et ceux qui briguaient des suffrages ou qui ont exercé une responsabilité de député. Et là, l'exemple de Chevigné peut être intéressant quand il est littéralement débarqué de la scène politique nationale en 58.
Il reste député.
Et non, il est battu en novembre 58. Oui. Il est battu, il sait qu'il ne reviendra pas à l'Assemblée parce que les gaullistes le feront battre, et puis parce que la démocratie chrétienne n'a plus le vent en poupe. Et donc il se replie sur les Basses-Pyrénées, qui sont maintenant les Pyrénées-Atlantiques. Il devient président du Conseil Général,
voilà.
Maintenant Conseil Départemental. Mmh. Et il a un ancrage local absolument fondamental. Et c'est ça. C'est, il faut repartir
voilà.
À la base.
Repartons des racines, repartons de la base et ne transigeons pas sur la République. Un grand merci à nos trois invités. Je rappelle les titres de vos livres. Pierre Servent, Les sept vies d'Adrien Caunus, c'est chez Perrin. Maxime Tandonnet, Georges Bidault, de la résistance à l'Algérie française, c'est chez Perrin également. Et enfin, Guillaume Piketty, français, libre, Pierre de Chevigné, c'est chez Talendier. Un grand merci également à notre réalisateur, Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment réécouter cette édition ainsi que celle qui les ont précédés sur votre plateforme de podcast préférée ou sur le site de RCF. Un grand merci à vous pour votre fidélité. À tout bientôt.